Voici la deuxième partie de la conférence sur les nouvelles mobilisations citoyennes en Afrique avec des représentants de Y en a marre, Ballet Citoyen, Filimbi, IINA. Ces associations défendent démocratiquement et pacifiquement les pouvoirs souvent autoritaires de leur pays. Ils rendent de l'espoir et de l'envie à l'action collective aux jeunes Africains marginalisés par leur gouvernement. Enregistré le 11 avril 2016 à l'amphithéâtre Chavannes, campus du Solbosch, Université libre de Bruxelles. Le débat est animé par Marie-Soleil Frère et par Olivier Roger. En voici la seconde partie.
Donc voilà, la parole est à qui veut la prendre. Il y a un micro baladeur.
Je m'appelle Dimitri Vordon, je suis président de l'association Culture et Progrès, qui est une association de défense des droits humains, particulièrement dans les pays africains. Trois points très très courts. Je me souviens, en 2011, le mot d'ordre lancé par les Y en a marre, c'était « Tous sauf Wad ». Puis c'est Macky Sall qui a accédé au pouvoir. Et je voudrais savoir, depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, comment Y en a marre a fait pour peser sur l'évolution de la société au Sénégal. Et c'est un point commun, je pense, à vous tous. Vous ne délivrez pas de doctrine, vous ne délivrez pas d'idéologie. Et donc, comment on fait pour tenir sans proposer une idéologie? Alors, le deuxième point, c'est, ça ne se voit pas beaucoup, mais en fait, je suis djiboutien aussi. Je suis belge et djiboutien. Et donc, je voudrais m'associer à l'intervenante pour le Burundi et à demander à vous et vos amis d'autres pays de aussi faire attention à la situation à Djibouti. Il y a eu des élections récentes comme au Tchad. On a beaucoup de liens avec le Tchad et Djibouti. Vendredi, il y a eu des élections présidentielles, exactement dans les mêmes conditions absolument lamentables. Et donc, je suis toujours, dès que j'ai l'occasion de le faire, désireux de parler de Djibouti, qui est un très, très petit pays, mais qui intéresse beaucoup la communauté internationale pour les intérêts en termes de lutte contre le terrorisme, et notamment. Donc je trouverais intéressant que vous puissiez venir soit à Djibouti, soit dans un pays voisin, soit même ici, pour pouvoir parler aussi avec des Djiboutiens qui ont vraiment beaucoup besoin de vous. Et alors, en forme de boutade, mais pas tant que ça, quand est-ce que vous viendrez aussi ici en Belgique pour apprendre aux Belges à faire ce que vous faites dans vos pays? Parce que je trouve que ça manque énormément. Ouais. D'une certaine manière, je trouve toujours indécent de comparer la situation que connaissent les populations dans les pays africains et de les comparer avec les conditions de vie qu'on connaît ici. Mais il y a des tas de choses qui se passent ici qui mériteraient aussi une action comme celle que vous menez en Afrique. Merci.
Donc, Aliou Sané, je pense que vous étiez directement interpellé.
Oui, tout sauf Wad, oui. Il faut replacer ce terme dans son contexte. Si pour les élections, le parti d'Abdoulaye Wade avait proposé un autre candidat, on se serait limité à notre sensibilisation. Les jeunes vont aller voter pour le candidat de leur choix. Mais malheureusement, Wade s'est vu trop beau. Il a voulu d'un troisième mandat, quitte à s'appuyer sur le Conseil constitutionnel qui l'a poussé à valider sa candidature. Donc sa candidature pour nous était inconstitutionnelle parce que il n'avait pas droit au troisième mandat, selon la Constitution, la charte fondamentale que tout citoyen se doit de protéger. Donc c'est pourquoi on a dit, les citoyens, votez pour le candidat de votre choix, parmi tous ces candidats dont les candidatures sont légitimes. Mais Wad, il n'en fait pas partie. On s'est battu pour qu'il ne présente pas sa candidature. Il a forcé, il a tapé, il a amené la police, il y a eu 13 morts. On a continué à se battre jusqu'aux élections. On a dit, poursuivons ce combat jusqu'aux urnes, en allant voter pour le candidat de votre choix, sauf Abdoulaye Wade, parce que sa candidature n'est pas légitime. Maintenant, en disant ça, oui, ça a profité à Macky Sall. Il s'est retrouvé au second tour avec Abdoulaye Wade. Et quand il est venu nous voir, entre les deux tours, à notre QG, pour nous dire, il faut donner une consigne de vote pour moi. On lui a dit, ben, pas besoin. La candidature d'Abdoulaye Wade, on a dit, il n'en fait pas partie. Et aujourd'hui, vous êtes face à Wade. Donc ce qu'on a dit, dans un certain sens, ça vous profite à vous. Mais la seule chose qu'on vous dit, c'est que vous avez fait le tour de tous les autres partis politiques, ils vont discuter de poste avec toi. Oui, si je dis oui, votez Macky Sall, tu me donneras tel nombre de portefeuilles ministériels. Nous, on n'a pas besoin de portefeuille. La seule chose, c'est la part du peuple, Wallou Askanoui, comme on l'a dit. Une fois que vous serez président, si vous posez des actes qui soient aux antipodes des aspirations populaires pour lesquelles vous avez été élu, vous nous trouverez sur votre chemin. Et pour faire la transition, je me rappelle, il y a eu des moments où il a voulu faire revenir le Sénat pour recaser une clientèle politique. On a dit stop, ça ne peut pas passer. Vous ne pouvez pas engranger autant de ressources pour une institution budgétivore qui n'a pas de sens dans le contexte sénégalais pour caser une clientèle. Donc il y a beaucoup de questions sur lesquelles on a dit tout de suite niet quand il le fallait. Mais pour nous, le travail véritable est qu'il puisse nous inscrire dans la durée pour que de génération en génération, que l'on puisse avoir des sentinelles, c'est qu'en dehors du spectacle des médias, que l'on puisse faire ce qu'on est en train de faire. Partout, organiser les jeunes, les former. Parce que ça ne sert à rien. Dans 2 ans, 3 ans, je passe à autre chose peut-être. Ce sont nos jeunes frères qui seront là. S'ils ne sont pas assez préparés, mais après, dans 5 ans, les gens vont dire, mais ils sont où, Aliou Sané et consorts ? On aura échoué. Donc c'est ça qu'on a compris. En dehors de l'agenda des partis politiques, Macky Sall, à chaque fois qu'il faut le rappeler à l'ordre ou sur une question majeure, on tape et on dit non, comme sur le référendum. Nous, on a été les premiers tout de suite à dire qu'il faut voter non. Parce que ce référendum-là, ce projet de réforme que Macky veut proposer au peuple, il n'est pas ambitieux. Parce qu'il a mis 700 millions de francs CFA pour une commission qui a sillonné tout le pays pendant 2 ans pour arriver à une proposition de réforme profonde comme on le voulait. On lui a donné une proposition de 100 points. Il crée 15 points et parmi les 15 points, 6 ou 7 points, c'est des choses qui existent déjà dans l'actuelle constitution et qui ne sont pas appliquées comme il faut. Donc c'est des réformettes. On a dit non. Parce qu'il fallait soit boycotter, soit voter non. Boycotter, c'est défaitiste. On a dit, il faut voter non pour qu'il retire ses projets de réforme et qu'il ouvre des concertations pour avoir une constitution qui réponde aux attentes populaires. Donc sur cette question, on a dit non et on est descendu pour sensibiliser les citoyens sur le contenu de ces réformes, dire que nous voulons d'une cour constitutionnelle qui soit à équidistance des partis pour que le président ne puisse plus manipuler le Conseil constitutionnel pour faire passer des choses. Nous voulons une Assemblée nationale forte qui exerce sa pression, contrôle sur l'action de l'exécutif. Nous voulons, il y a eu plein de choses comme ça. Mais donc, pour répondre à votre question, les gens n'ont pas rêvé. Macky, on ne l'a pas pris pour le Messie. Mais on estime qu'il y a une mue qui est en train de s'opérer. Wade est parti, Macky est venu. C'est toujours dans la même trame qui, depuis les indépendances, continue de nous diriger sur la base de nos contre-valeurs. Macky partira, mais à terme, dans 10, 15, 20 ans, c'est d'arriver à ce que nos fils soient dirigés par des présidents qui soient à la hauteur de nos peuples, comme on l'a dit à Barack Obama quand il est venu. Donc c'est vraiment ça. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, mais notre combat s'inscrit dans la durée pour des générations. Peut-être que nous, on ne bénéficierait même pas des fruits de cette lutte-là. Mais c'est comme ça que nous, on le voit. Merci beaucoup.
Merci Aliou. Sur Djibouti, lequel d'entre vous est prêt à prendre l'avion et à partir à Djibouti? Floribert?
Nous sommes prêts, oui. Mais j'aimerais peut-être compléter Aliou sur le point des idéologies, parce que je trouve que c'est assez important. Lorsque nous nous engageons, nous sommes conscients que le changement dont on parle, ou finalement l'amélioration de la situation, c'est un processus à moyen et long terme. Smoke l'a dit tout à l'heure, il faut changer un système. Un système est composé de plusieurs paramètres. Il y a les citoyens, il y a les dirigeants à un moment donné, il y a la classe économique, et puis il y a ce qu'on peut identifier comme des penseurs ou ceux qui produisent finalement des politiques et qui permettent aux décisions de se mettre en œuvre. Nous sommes conscients que c'est un processus moyen et long terme. Mais pourquoi nous nous focalisons? Parce que ça, c'est une question qui est posée, qui va peut-être répondre en partie. Nous nous focalisons sur le principe de l'alternance. Parce que nous estimons qu'en termes d'étapes, c'est une première étape importante. Il faut que les citoyens puissent se mobiliser pour empêcher un petit groupe de se maintenir au pouvoir. Et ça va être une première étape. Ceux qui viendront après, comme aujourd'hui au Sénégal ou au Burkina Faso, dans tous les cas de figure, feront beaucoup moins de dégâts que ceux qui sont passés avant, parce qu'ils auront un peuple, des citoyens, debout. Maintenant, il y a un deuxième exercice à faire. Lorsque vous parlez d'idéologie, oui, il y a un deuxième exercice à faire. Il faut faire émerger une nouvelle classe politique, une classe politique alternative. Il faut faire émerger une classe économique. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple du Congo. Je suis banquier. 90%, 95% du Congo, économiquement du Congo, est détenu par des réseaux économiques, je le dis, mafieux. Ça fait partie du système. Ça contribue à maintenir le système politique. La population congolaise, ces dernières décennies, hein, je dirais depuis Mobutu, on a tout fait pour la chosifier. Il faut travailler, nous c'est le travail que nous nous sommes donné, dire travailler sur ces citoyens, travailler sur cette population pour qu'elle se reprenne en charge, se reprenne en main. Il y a plusieurs tiroirs sur lesquels il faut travailler. Nous travaillons sur l'un des tiroirs, mais effectivement il faut que d'autres travaillent sur d'autres tiroirs. Il faut des nouvelles idéologies, il faut des alternatives, il faut des propositions concrètes pour que le changement puisse être concret et véritable. Donc nous sommes conscients de ça.
Si vous permettez, moi je voudrais rajouter quelque chose. Aussi dans le même sens, mais Sankara est décédé depuis 1987. Beaucoup de gens connaissent Thomas Sankara, l'œuvre de Thomas Sankara, ses discours, sa présence, son combat. Il n'existe toujours pas d'idéologie claire sankariste. C'est encore le mal et encore plus. Alors que nous nous inspirons beaucoup de son œuvre, les mouvements comme les nôtres sont plutôt récents. C'est depuis 2013. Vous, c'est 2011, toi, c'est 2015. Donnons du temps au temps. Si l'idéologie doit être écrite ou mise en place, peut-être que vous en serez quelque part un concepteur. Peut-être que vous nous épaulerez dans cette fresque. Mais effectivement, ce sera nécessaire à un moment donné ou à un autre. Pour l'instant, on s'inspire. Je crois que notre combat lui-même... quelque part, nos expériences différentes comportent peut-être effectivement des germes ou des pistes de solutions ou d'organisation, en attendant qu'on puisse réaliser quelque chose de plus pérenne, on va dire.
Merci Smoké. On va prendre une autre question. Bon, le micro est là.
Merci beaucoup. C'est une question en fait, je crois, qui est très liée à celle qui vient d'être posée et donc à vos réponses. Donc, je vais essayer de ne pas poser une question qui vous amènerait à vous répéter, mais c'est précisément la question finalement de la gestion, de la canalisation des aspirations populaires que quelque part les mouvements que vous animez ont permis, en tout cas pour un temps, de fédérer. Donc, à des plateformes revendicatives communes, là où l'opposition, par exemple au Burkina Faso, était multiforme, là où finalement la contestation était fragmentée. Donc à un moment donné, il y a eu cette cristallisation-là. Mais en faisant ça, finalement, ça donnait de la force au mouvement, mais ça pose la question finalement précisément de ce qu'on appelle la révolution. C'est-à-dire le changement complet du système qu'appellent de leur vœu les jeunes. Et je l'ai vu notamment au Burkina Faso, où ce n'est pas simplement une alternance démocratique, mais c'est tout le système qu'ils voulaient voir remplacé, et y compris pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre, qui sont très pragmatiques, trouver un emploi, avoir un certain train de vie, accéder aux études, etc. Et la difficulté qui est posée, ça concerne peut-être moins le Sénégal, et encore, je perds sous votre contrôle, mais là où les régimes ont duré très longtemps, parfois plus d'un quart de siècle, comme au Burkina Faso, l'État a été façonné, l'économie a été façonnée par la classe politique autour du président, par exemple, Compaoré. Et le renouvellement des cadres de la fonction publique, le renouvellement de ces opérateurs économiques, etc., on sait très bien qu'elle n'est pas possible à court terme. Ça a été la même problématique avec la dénazification en Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Donc comment vous pensez, en fait, ce problème-là, encore une fois, de canalisation de ces aspirations populaires et peut-être aussi de prévenir les déceptions qu'il pourrait y avoir face à ces aspirations-là. Voilà, je vous remercie.
Je vais me permettre de répondre aussi parce que je crois que j'ai dû être interpellé par rapport à ce qui se passe au Burkina aussi. Il y a eu beaucoup de sacrifices, honnêtement, qui ont été consentis jusqu'ici au Burkina Faso. Moi, j'en ai consenti. Mes camarades en ont consenti. Le peuple burkinabé, dans son entièreté, en a consenti. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape que moi j'appelle l'étape évolution, parce que moi je suis parti du principe que, en réalité, pour vous suivre dans vos explications, pour moi il n'existe aucune révolution dite pure, au sens pur, où on l'entendrait. En ce moment-là, on condamnerait toutes les révolutions du monde qui n'ont pas réussi ce bouleversement total qu'on avait voulu, qu'on avait rêvé. Moi, j'ai estimé que pour y arriver, il fallait disséquer le travail et le combat en plusieurs étapes. Je l'ai imagé dans mon dernier album qui s'appelle Prévolution. J'ai appelé ça la première étape de couleur jaune, prémonition, pour devancer les événements, s'organiser. La deuxième étape de couleur rouge, révolution, pour l'action en elle-même. Et la troisième étape, évolution, pour ce que Jean Ziegler a appelé l'insurrection de conscience, qui est censée effectivement amener ce vrai bouleversement-là, le changement qui ferait que ce ne soient plus les mêmes causes, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets, qu'on puisse trouver un autre schéma. Et je place beaucoup d'espoir dans le renouvellement de cette classe politique-là. Et je ne crois pas que c'est fatal, mais je pense qu'il nous faut un peu de temps pour ça, effectivement, vous l'avez dit, avec la dénazification. Aujourd'hui, la pomme est pourrie, mais il se trouve que la pomme est pourrie, mais nous n'avons plus le même consommateur. Le consommateur qui, jadis, pouvait avaler une pomme pourrie et fermer sa gueule, ce n'est plus le même. Aujourd'hui, c'est un consommateur critique, c'est un consommateur qui ne va pas accepter ce fruit pourri-là. Le système, on l'a dit, le lendemain des élections, aujourd'hui, nous avons Roch-Marc Christian Caboret, qui est un des anciens caciques du régime, qui a été président de l'Assemblée nationale, premier ministre, etc., etc., et Salif Diallo et Simon Comparé, vraiment, c'est une trilogie de dinosaures de l'ancien régime. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est le choix du peuple. Pour une fois, dans l'histoire du Burkina Faso, nous avons un gouvernement entièrement civil, issu d'un processus électoral transparent, en tout cas, qui n'a pas du tout été contesté, et donc légitimé. Et on est obligé de constater que c'est le choix du peuple, c'est le peuple qui l'a choisi. Comment est-ce qu'on va faire maintenant pour amener ce changement ? On va y aller doucement, étape par étape. Et je vous dis qu'aujourd'hui, même si Blaise Compaoré revient aujourd'hui au Burkina Faso, il ne pourra pas diriger comme il dirigeait avant. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, il y a une mentalité actuelle au niveau du Burkina Faso qui fait que la contestation est quasi courante. Vous l'avez vu avec les Koloéro, qui sont ces espèces de milices populaires qui se sont mises en place pour faire leur propre justice, qui ont créé énormément de problèmes d'ailleurs au nouveau gouvernement. C'est parce qu'il y a de la révolte partout dans l'air. Et nous, on n'y échappe pas non plus. On est ciblés tout le temps aussi par cette même opinion critique et publique que nous avons contribué aussi à rendre plus critique. Eh bien, aujourd'hui aussi, nous aussi, on en est victimes. Parce qu'on remet tout en question. Mais c'est très bien. Ça doit être ça, la révolution. Ça doit être ça, le bouillonnement. Et nous pensons vraiment que le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Avec quelques années qui passent, les choses vont se décanter. La vérité sortira au grand jour. Et je vous assure qu'il y aura de nouvelles candidatures. Moi, je suis optimiste. Comme j'ai toujours dit, il faut un pessimiste pour créer le parachute. Certes, nous avons donc dû être pessimistes à un moment donné, parce que nous embarquions dans un avion, on ne savait pas où le pilote nous amenait. Mais aujourd'hui, qu'on a un peu plus confiance à cet avion-là, on peut se permettre d'être optimiste. On va se donner les moyens d'y arriver. Nous sommes les enfants de Thomas Sankara, de Norbert Zongo, de Lumumba et Cabral et j'en passe. Et nous avons grandi aujourd'hui. Nous avons grandi. Quand on a voulu résister à la tentative de modification de l'article 37 de Blaise, on a dit « c'est pas possible ». Vous, les Burkinabés, vous ne pouvez pas. Même l'Union européenne a dit on ne peut pas. Les rapports de World Crisis et tout, c'était dans le meilleur des cas, ils disaient que le peuple burkinabé allait se révolter, Blaise allait les calmer, les mater, et puis ils allaient se coucher. C'était le truc le plus positif. Voilà. Donc personne n'avait prévu, ne pensait que ce peuple burkinabé-là allait le faire. Nous avons rencontré plein d'ambassades, l'ambassade du Canada, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, un des seuls ambassadeurs d'ailleurs qui a critiqué ouvertement le système comparé. Et puis, nous avons même tenté de rencontrer l'ambassade de France qui ne nous a pas reçus. Il n'y a que le lendemain de l'insurrection que nous avons reçu un coup de fil de l'ambassadeur pour dire qu'il avait bien reçu notre demande et qu'il souhaitait nous rencontrer. Ouais. Et toutes ces ambassades nous ont dit quoi ? Elles nous ont dit que c'est la diplomatie, nous devons respecter une certaine neutralité due à nos charges, etc. Voilà, du courage. L'ambassadeur du Canada, chez nous on dit du courage. L'ambassadeur du Canada nous a même dit que, lui il ne voit pas, lui il n'a aucun intérêt ici, ils n'ont pas d'intérêt dans ce pays-là, ils ne peuvent pas s'impliquer. J'ai dit, mais monsieur l'ambassadeur du Canada, vous n'avez pas d'intérêt ? Et vos mines, là, l'exploitation d'or, là, tout ça. Vous êtes un des plus gros exploitants d'or ici. Oh, c'est pas grand-chose, j'ai dit. Allez dire ça à d'autres. Donc, vous voyez que tous ces gens, nous avons contacté. Nous avons contacté l'Union africaine. Nous avons tenté aussi de faire qu'ils puissent, d'une certaine façon, user de leur position pour faire pression sur Blaise. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait avant ? C'est pour ça, après, nous avons dit il faut adopter la solution de régler les crises en amont plutôt qu'en aval. Voilà. Et donc, On a contesté cette possibilité pour le peuple burkinabé de faire cette révolution et il l'a faite. On lui a dit non, il ne va pas réussir à faire une transition. Il l'a fait. On a dit le push, ah ça c'est fini pour les Burkinabés. Quand il y a eu le coup d'État, il y a beaucoup d'anciens caciques du régime qui sont sortis, ils ont ouvert la bière, ils ont commencé à fêter ça déjà. Ils étaient contents comme ça. On a chassé les putschistes, ils ont fermé leur gueule, ils sont encore rentrés dans leur trou. On nous a dit on ne peut pas organiser les élections. On a fait. Les opposants, l'opposant même avant la déclaration même principale, il est sorti, aller féliciter même le candidat. Tout le monde applaudit. Oh, on dit, oh, c'est beau, c'est beau. Mais nous sommes des champions de la Coupe du Monde. Nous sommes des champions du monde. Laissons, on va profiter de ça. Même là, on ne veut pas qu'on se repose. Mais ça va aller. Ça va aller.
Donc, se moquer, ça veut dire que dans les 5 ans, concrètement, pour la prochaine présidentielle, vous, le Ballet Citoyen, aurez mis au monde un possible candidat d'alternance qui représenterait une véritable alternance par rapport au système.
Si je m'avance à dire des choses comme ça, on va dire que nous sommes des Gepetto, des manipulateurs. Non, nous ne voulons pas mettre en place, former un candidat. Non, ce n'est pas notre travail. Nous voulons susciter cette envie-là chez les jeunes de s'engager en politique. Et ils vont s'auto-former. Ils seront sur le terrain comme tout le monde. Nous voulons simplement que démystifier la politique et le politicien. C'est incroyable quand on est au Burkina Faso d'entendre des gens dire « Son Excellence, Monsieur le Président de... » Mais c'est quoi ce truc-là? Quand on commence à dire « Excellent citoyen que vous êtes », d'abord aussi, « Honorable député, des machins, des noms lourds qui ne veulent rien dire. » Et chez nous, c'est très long. Hein? Quand on commence à citer, toi-même, tu dors tellement ces trucs, quoi. Voilà. Et c'est tout ça qui flatte nos dirigeants. Et puis, ils croient à un moment donné qu'ils sont sur un fauteuil inéjectable. Laurent Gbagbo a dit que ce n'est pas un banc, hein, que c'est un fauteuil. Que quand c'est un banc, on va appeler les autres. Et donc, les gens sont là, ils sont sur un nuage. Ils se comportent comme des chefs traditionnels du village. Il faut que tout cela, ça cesse. Ça commence par nous-mêmes. Commençons à les traiter comme des employés qu'ils sont, parce qu'ils sont au service du peuple. Nous sommes leur employeur et je pense que le respect doit se mériter. Voilà.
Une autre question peut-être dans la salle, monsieur. Monsieur qui levait la main depuis... Voilà.
Merci. Moi j'avais deux petites questions. La première s'adresse aux parlementaires européens. Je vais citer Antoine de Saint-Exupéry qui disait que si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Vous faites venir des jeunes de mouvements étrangers à l'Europe. Ils vous disent leur expérience. Quel message vous avez à l'intention de vos jeunes? Est-ce que vous voulez qu'ils s'alignent également sur ce modèle pour faire changer l'Europe? Parce que aussi les Européens se plaignent de leur société, ils ne sont pas fiers. Est-ce que vous voulez que les jeunes Européens s'engagent sur ce modèle? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question a trait à la survie maintenant de ces mouvements, sociaux. Ils ont réussi à faire des changements, produire des choses merveilleuses. Le cas du Burkina Faso avec le Ballet Citoyen, qui a été sur la première ligne de la bataille. Ils ont réussi, en tout cas, contribué à faire tomber Blaise Compaoré. Aujourd'hui, les gens peut-être cherchent à dénigrer ces mouvements pour les faire tomber parce que, bon, soit des politiciens en place ou ceux qui ont été tombés peut-être veulent les faire payer aussi le prix. Smokey sait de quoi je parle. On peut leur prêter faire plusieurs procès, des faux procès. Est-ce que ailleurs ça arrive et quelle peut-être ligne de défense ils adoptent face à cela? Merci.
Merci. Donc je passe la parole peut-être à Marie Arena pour répondre à votre première question.
Je n'ai pas vu la personne qui posait la question, donc... Ah, voilà. Mais pendant cette semaine, on a appris beaucoup les uns des autres, et donc l'objectif, ce n'était pas de venir en disant les Européens vont dire à nos partenaires africains comment il faut faire. Pas du tout. Donc on a vraiment échangé beaucoup de choses. On a eu des experts qui sont venus dans le domaine de l'éducation, par exemple, hein, et qui nous ont mis en face un miroir qui n'était pas très très beau de ce qu'on faisait en Europe en matière d'éducation, et qui, au niveau africain, a beaucoup plus réfléchi sur la question de où se place l'être au milieu de l'éducation plutôt que de simplement lui donner un diplôme, de le mettre dans un amphithéâtre, de le rendre un peu mouton, et puis surtout de faire en sorte qu'il ait aucun esprit critique. On a un peu l'impression qu'en Europe, désolé pour cette approche un peu caricaturale, mais on a un peu l'impression qu'en Europe, on en est là aujourd'hui. Et on avait beaucoup de retours de partenaires africains qui nous disaient nous, l'éducation, c'est pas pour avoir un papier. L'éducation, c'est pour être acteur de notre changement et acteur de notre futur. Donc il y avait vraiment un travail à ce niveau-là. Alors en matière de mouvement citoyen, on l'a bien vu avec nos camarades ici présents, ils n'ont pas attendu que les hommes et les femmes politiques leur demandent de faire quelque chose. C'est l'inverse. S'ils prennent une initiative, ils s'organisent, et ce qu'ils veulent, c'est que les hommes et les femmes politiques ne les contrent pas dans leur action. On a la chance, et j'espère qu'en Europe, on va encore la garder pendant un moment, c'est qu'on a des espaces démocratiques où la liberté d'expression, même quand elle est contestataire, peut s'exprimer. Je dis j'espère qu'on la gardera, parce que quand je vois la manière dont on criminalise certaines contestations, il y a des questions à se poser aujourd'hui en Europe, en Belgique, mais pas uniquement en Belgique. Quand on voit les états d'urgence qui sont aujourd'hui créés suite aux attentats, il y a des questions à se poser. Alors, j'entends, il y a les questions de sécurité qu'il faut garantir, mais en même temps, on ne doit pas se servir de ces questions de sécurité pour retirer les espaces de liberté que nous avons aujourd'hui en Europe. Donc, on est dans un couloir extrêmement serré pour l'instant en Europe, et ce couloir, il faut absolument essayer de le réouvrir le plus vite possible pour garantir que des mouvements tels que ceux-là qui peuvent exister aujourd'hui en Europe, et on le voit dans pas mal de pays européens, ce qui s'est passé en Grèce, ce qui s'est passé en Espagne, ce qui se passe aussi en Italie, au Portugal, en France. Le problème de la France aujourd'hui, c'est que les mouvements contestataires, aujourd'hui, on les voit beaucoup dans, l'expression du Front National. Non, il y a les debout, mais si on fait, effectivement, les nuits debout, elles existent, c'est important. On a aussi des mouvements des nuits debout en Belgique. Mais aujourd'hui, l'expression de la contestation française, elle se fait au Front National. Enfin, je veux dire, il ne faut pas oublier. Donc, on doit vraiment être très, très, très attentif, justement, pour que ces mouvements-là, aujourd'hui, puissent continuer à s'exprimer au niveau européen. Avec des champs assez différents, avec des modalités qui seront différentes. Les modèles européens ne sont pas les modèles africains et vice-versa. Mais on a beaucoup à apprendre les uns des autres sur la manière dont, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé comme tu as exprimé, exprimé les différentes antennes qui ont été créées dans les différentes régions avec des groupes qui s'organisent. Et l'idée du Marocain qui dit s'organiser, c'est gagner. Je pense qu'effectivement, des mouvements tels que ceux-là, ce n'est pas des mouvements anarchistes. Ce sont des mouvements qui s'organisent, qui ont un objectif, qui ont un calendrier, qui ont un programme. Et si on veut vraiment mobiliser et changer, je pense que ça passe effectivement par là. Et on a la chance en Europe d'avoir les espaces qui le permettent. Encore une fois, ce n'est pas garanti. Les espaces qu'on a, ils ont été créés grâce à des luttes. Et ce qu'on est en train de vivre en Europe aujourd'hui, c'est un rétrécissement de ces espaces-là. Donc on compte sur vous, mouvement citoyen, pour nous aider à réouvrir ces espaces qui se ferment très très vite.
Merci beaucoup. Qui veut répondre à la seconde question qui était adressée plutôt à Smokey, je pense, encore.
En tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'on peut, dans cette salle-là, éliminer tous les tabous. Hein, s'il y a des gens qui ont des choses à dire, on peut y aller gaiement. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Quand on a un mouvement citoyen, comme tu l'as dit, frère, tu as tout compris, c'est ça. Nos adversaires d'avant, nos alliés circonstanciels d'avant, parce que nous avions les mêmes objectifs, peuvent se révéler être aujourd'hui même nos principaux ennemis ou détracteurs. Donc ça tire de tous les côtés. Mais après, c'est aussi aux citoyens lambda quand même d'observer une certaine logique. Moi, mon combat, en tout cas, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'ai commencé, et je pense que la majorité des Burkinabés savent ça. Si je devais prendre de l'argent, j'allais prendre ça avec Blaise Compaoré. Je pense qu'il en avait beaucoup plus. Encore aujourd'hui, il en a certainement plus. Voilà. Et son réseau. Et ce n'est pas les sollicitations qui ont manqué, ce n'est pas les propositions, même concrètes, qui ont manqué, qui ont été systématiquement renvoyées à l'envoyeur. Bon, un tigre ne proclame pas sa tigritude. J'attends juste qu'un jour, quelqu'un s'amuse à publier un truc avec son nom dans un journal. Et puis, bon, c'est ce jour-là qui va vraiment m'enrichir. Sinon, aujourd'hui, moi, je crève la dalle. On dit que je roule en V8. C'est la même vieille Mercedes non climatisée que j'ai depuis 10 ans. Tous ceux qui viennent, lui-même, il a roulé dedans. Il connaît. C'est ça qui est calé devant ma maison. Est-ce qu'on peut cacher V8? V8 est calé. On dit, Ballet Citoyen a eu 1,7 milliard. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu 1,7 milliard qui sait qu'on peut tirer ça dans la rue, envoyer au siège et puis se partager sans que les voisins soient au courant. Voilà. Donc, on dit plein de choses. On a dit que, excusez-moi du peu, j'ai couché avec la femme de l'ambassadeur de France. On m'a donné un terrain nu de 300 millions de francs. J'ai un immeuble en Côte d'Ivoire, à la Riviera. Donc, je suis voisin de Blaise Compaoré, en fait. Cet immeuble-là s'est déplacé après. Il est venu à Ouagadougou. Aujourd'hui, on dit que j'ai payé un terrain et une maison en France. Alors que moi, je suis au Burkina locataire. Donc, moi, je vais louer une maison au Burkina. Et puis j'ai l'argent pour aller payer une maison en France où je n'habite pas. C'est ça, les gens n'y réfléchissent pas, c'est comme ça mon frère. Donc qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais tu as tout compris. Donc il va y avoir de la diffamation, de la délation, du machin, et j'en passe. Tout ça pour couler le mouvement, parce qu'effectivement, on continue de mener le même combat. Mais ça va toujours nifler, parce qu'au-dessus de tout ça là, il y a et il reste des convictions. Et on n'a pas fait tout ce parcours-là pour rien. Voilà.
Moi, comme l'a dit Smokey, je pense que c'est juste une question de logique. Par exemple, quand on prend le cas du Burkina, c'est de dire est-ce que oui ou non, même si Smokey prend de l'argent, qu'il roule en V8, est-ce que oui ou non, Blaise Compaoré a passé 27 ans au pouvoir, oui ou non, oui. Est-ce que le peuple burkinabé se porte bien, oui ou non, c'est non. Donc, ce n'est pas en fait le fait que tous les leaders en fait ont toujours, même que ce soit Thomas Sankara, il y a toujours eu des diffamations. Mais que je n'appelle, bon, je n'en sais rien, mais il y a toujours ce côté négatif qu'on fait ressortir. Mais le problème, c'est une question de logique. Aujourd'hui, au Tchad, ce n'est pas parce qu'on nous accuse, par exemple, de prendre de l'argent de l'Europe pour foutre le bordel au Tchad. Mais en fait, le problème, c'est de mettre la population devant ses responsabilités. C'est est-ce que vous êtes d'accord avec la politique d'Idriss Déby? Est-ce que vous vivez bien? Est-ce que tout marche bien? Parce que moi, je me rappelle que j'étais avec Smokey après un concert. On était sur un petit bateau de rien du tout. On fait une photo qu'on poste sur Facebook.
J'étais même prévenu. Hein.
Oui. On fait une photo qu'on poste sur Facebook et directement, la réaction, c'est « Smokey, tu as mis le feu au Burkina Faso et maintenant, tu es parti en vacances en Europe. » Donc, ça, c'est... Voilà, c'est
moi,
c'est
je lui ai
ça.
Même dit « Si on poste cette photo-là, tu vas voir la réaction de certaines personnes. Et si tu vas sur leur profil, tu as tout compris. » Petit bateau qu'on a fait là, surtout qu'on a mis là. Vous regardez la réaction ça là. Que nous on a envoyé les enfants des gens se faire tuer sous goudron. Mais nous on est en vacances, on bouffe l'argent, on est là.
Ok, on va encore prendre deux questions parce qu'on va devoir s'arrêter à 20h30. Donc le monsieur avec le pull rouge et puis la dame avec sa veste grise.
Oui, bonsoir. Moi je viens du Burundi. Je suis journaliste. Bon, malheureusement, aujourd'hui, en exil. Alors, ma question est très simple. Est-ce qu'on peut toujours éviter la violence? Est-ce qu'on peut toujours éviter la violence? Quand on voit ce qui s'est passé au Burundi à partir d'avril de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai vraiment beaucoup de doutes. On a vu un mouvement pacifique, des jeunes, des femmes qui défilaient pacifiquement dans les rues. D'abord, une police assez professionnelle, des jets d'eau, bon, un peu de lacrymogène de temps en temps. Et puis après, on a vu quasiment la police commencer à tirer à balles réelles la vraie violence. Aujourd'hui, au Burundi, une manifestation est quasiment impossible. Ce qui fait que de plus en plus de ces jeunes qui étaient au départ pacifiques, aujourd'hui, se tourne vers la violence. On risque aujourd'hui de retomber dans la guerre. Mais est-ce qu'ils ont le choix aujourd'hui? J'ai l'impression quand on voit le Sénégal ou le Burkina Faso, bon, le Congo, c'est un peu, peut-être parce qu'on est voisins, c'est assez violent aussi. Dans ces deux pays, le Sénégal et le Burkina Faso, J'ai l'impression que la police est un peu plus humaine quand même. Nous, ce qui se passe, ça dépasse tout l'entendement. On a vidé des quartiers. On arrête, on torture, on tue. Alors, ma question, est-ce qu'on peut toujours éviter la violence? Au Burundi, que faire aujourd'hui? Dans un pays où les radios ont été incendiées, détruites, où plus de 100 journalistes se sont enfuis, que faire? Quel conseil? Merci.
Alors, c'est effectivement une question fondamentale qui touche à la nature violente ou non d'un régime politique. Effectivement, il y a une grande différence entre le Sénégal, le Burkina, enfin, le Sénégal d'un côté, peut-être le Burkina de l'autre, et surtout l'Afrique centrale, le Burundi et le Congo, où le niveau de violence est beaucoup plus élevé. Comment faire, donc? Peut-on éviter cette violence, Aliou Sané, vous avez peut-être une idée?
On ne peut pas prendre peut-être l'autre aussi après...
Globaliser?
Voilà,
si vous voulez.
Oui, bonsoir.
Merci. De faire bref. Oui. Si vous faites bref, on peut prendre encore 3 ou 4 questions.
Je vais faire très bref. Ayoko Mensah, donc journaliste. Je voudrais d'abord vous remercier vraiment pour vos interventions. Et puis vous poser donc 2 questions. La première, c'est par rapport à la représentation et l'engagement des femmes dans vos mouvements et des jeunes filles. Donc voilà, est-ce qu'elles s'engagent et quel est un petit peu leur rôle? Et est-ce que vous menez aussi certaines actions particulièrement en direction des jeunes filles et des femmes pour qu'elles soient impliquées dans vos mouvements? Et la deuxième question, c'est plus par rapport en fait à la montée des discours religieux et du radicalisme religieux qui est, je pense, effectivement, qui existe dans nos pays, qui est extrêmement prégnant et visible. Comment vous vous situez par rapport à ce phénomène? Est-ce que vous avez des stratégies particulières? Je pense notamment par rapport à parfois des leaders religieux qui finalement ont plus de poids que les leaders politiques. Donc, merci.
Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos différents témoignages et rebondir sur les questions, enfin, le témoignage de Juliette concernant le Burundi. Donc là, je m'exprime en tant que jeune belge d'origine burundaise vivant en Belgique qui est préoccupée par ce qui se passe au Burundi. Et j'aurais voulu savoir dans quelle mesure, si c'est le cas, vous valorisez les forces de la diaspora, notamment des jeunes qui sont à l'extérieur des frontières. Et quels conseils vous pourriez donner finalement à des jeunes qui sont par exemple ici, pour se mobiliser d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être un peu large, mais voilà. Merci.
Moi, je suis aussi d'origine congolaise, belge, et fille du premier ambassadeur congolais ici, en Belgique, après l'indépendance. Alors, ce qui est important pour nous, c'est la question que je demande à l'Union européenne. À quand pouvons-nous avoir une double nationalité ? Parce que nous, ici, en tant que diaspora congolaise, nous aimerions bien aussi participer, justement, à l'essor du pays de nos origines. Ça, c'est une question à l'Union européenne qui, jusqu'à présent, on n'en parle jamais. Et la deuxième question, c'est de dire que c'est vrai, oui, nous ne voulons pas que Kabila soit là encore une fois, surtout que c'est 2 Kabila en suivant, mais nous savons aussi que les présidents qui se présentent aujourd'hui ne sont pas aussi de très bons. Il reste encore toujours les anciens ou les nouveaux. Donc nous nous battons vraiment dans une merde, quoi. Donc là, il faut, pour moi, l'important, c'est de pouvoir dire à nos électeurs peut-être de boycotter aussi et de changer la liste, parce que d'arrêter de prendre les anciens, mais de vraiment renouveler les personnes qui doivent se présenter. Voilà.
Bonjour, je suis un étudiant Erasmus ici à l'ULB et je travaille pour une organisation japonaise qui s'appelle Ashinaga et on cherche de donner accès à l'université à des étudiants de l'Afrique subsaharienne. Et ma question est par rapport à l'éducation, en fait. Et donc, je demande, on a parlé des formations, surtout dans les cas de Yanamar, qui organise de la formation, surtout dans les pays, dans des unités. Mais comment on peut utiliser la formation de l'université, qui c'est d'un côté la formation de la connaissance, pour donner de la connaissance, et surtout aussi la formation d'une identité des étudiants. Et donc, un endroit dans lequel les étudiants se pourraient trouver et créer une identité pour, en fait, retrouver les liens entre la liberté et l'éducation. Et donc, comment on peut utiliser cette formation, cette éducation pour des façons politiques et des buts politiques. Merci.
Merci. La première question, peut-on toujours éviter la violence? Bon, déjà, la première chose, moi, pour nous, parce que chaque pays a ses réalités, mais pour nous, je pense que la non-violence a été une arme vraiment très, très puissante face à une police et un président qui est dépositaire ou qui a le monopole de la violence légale. Et parfois, ils nous ont poussés à être violents. Ils ont voulu que l'on soit violent pour qu'ils disent à la face du monde, regardez, ils n'ont que l'insulte à la bouche et c'est des violents. Nous, on a dit non, on ne va pas être violent. À chaque fois que qu'on leur disait, c'est que on peut prendre des balles si vous voulez, mais on ne fera pas de cocktail Molotov. Au moment où le plus facile, c'était de répondre à d'anciens militaires qui nous disent, écoutez, on va vous montrer comment faire sauter un immeuble. Nous, on a dit non. Non-violence. Mais maintenant, les choses étaient arrivées à un point où c'était très compliqué, quand ils ont tué des jeunes, quand même il y a eu un policier qui a perdu la vie. À un moment, des jeunes, parfois il arrive qu'on ne puisse pas contrôler la masse. Parfois il est arrivé que des jeunes se barricadent, qu'ils prennent surtout au cœur du marché les tables des marchands ambulants, qu'ils prennent, qu'ils brûlent pour que la police ne fonce pas sur eux. Donc parfois il y a eu ça, mais globalement j'estime que cet aspect non-violence est très puissant et c'est ça l'identité de ces mouvements sociaux. Maintenant, dans les événements en ce qui nous concerne au Sénégal, il est arrivé que devant la répression inouïe de la police, que des jeunes se barricadent, qu'ils s'adaptent, qu'ils apportent la réplique. Mais ça n'a jamais été, oui, travaillons à concevoir une stratégie de combat violente. Non, ça n'a jamais été ça. Mais les jeunes parfois, ils ont apporté la riposte. Pour freiner la police. Donc, pour le cas du Sénégal, c'est ça. Et je vais raconter une anecdote par rapport à la police sénégalaise. C'est vrai, elle fait son job. Mais il y a eu une fois, on est allé en sensibilisation dans la ville de Mbaké, à 3-4 heures de Dakar. C'était avant les élections, quand on incitait les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Et quand Blaye Wade a vu que les jeunes commençaient à aller en masse pour s'inscrire, pour aller voter. On est descendu à Mbaké. La police, bon, déjà en quittant Dakar, à une heure de Mbaké, on nous a appelé pour nous dire la police est au courant de votre arrivée, ils sont là, ils vous attendent. On a dit, il n'y a pas de souci, on est des citoyens de ce pays, on a le droit d'aller là où on veut dans le pays, sensibiliser les jeunes. Donc on arrive, on ne vient pas avec des armes, on vient avec nos mots pour sensibiliser. Comme prévu, on arrive, on commence à descendre dans le marché, les gens, ah oui, oui, tout le monde est, on commence à... La police vient, elle nous encercle. Comme des terroristes, hein, on nous embarque, on nous amène au commissariat. Et quand on est arrivé au commissariat, quand ces gens-là qui nous ont arrêtés, ils sont partis, avec les patrons de la police, avec les brigadiers et tout, mais après, on était en plein... Mais pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de problèmes de la police? Nous, on est la grande muette, on ne peut pas parler, il n'y a pas de syndicat de la police, mais on a tel problème, on a tel autre problème. Je vous dis, nous, on fait notre boulot, on vous arrête, mais après, il n'y a pas de souci et tout. Ils nous prennent en garde à vue et après, finalement, moi, le gars qui prenait mon PV, c'était même le patron de la police locale. Il dit, ces imbéciles-là, hein, ils font leur truc, après c'est nous qui truquons, c'est nous qui vous arrêtons. Hein, on nous met en mal avec le truc. C'est comment ton nom? C'est Aliou Sané. Ok, vite fait, on va y aller. Il a bâclé le truc. Pour dire que non, on comprend votre lutte, mais malheureusement, on fait notre job. C'est ça notre réalité. À un moment, ça a évolué au niveau national, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais bon, voilà, c'est ça la réalité du Sénégal, quoi. Maintenant, la représentation des femmes. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que dans la charte, parce que quand Yann Amar est né, les cellules ont commencé à se créer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, pour chaque cellule qui se crée, pour qu'on valide l'existence de la cellule, il faut qu'elle soit composée de 25 personnes au départ, dont 10 femmes, au moins. Donc, on encourage à ce que les femmes adhèrent dans les cellules. Mais ce qu'on ne fait pas, c'est que là, on dit, oui, le mouvement est là, on va aller recruter 12 femmes pour donner l'impression que les femmes, elles sont là. Je pense que ce n'est même pas faire de l'honneur aux femmes. Mais malheureusement, dans les partis politiques, d'habitude, c'est ça. On dit groupement des femmes, comment ça s'appelle, la coordination des femmes du Parti socialiste. pour mieux les isoler et les exploiter, acheter des tissus pendant les trucs leur donner, elles ne sont là que pour applaudir. Nous, on n'est pas pour ça. On pense que les femmes ont un rôle à jouer. On encourage à ce qu'ils participent dans le mouvement, mais après le combat, c'est comme tout le monde, elles se battent pour incarner un leadership. Et il y a des femmes qui sont en train de le faire. Voilà, donc c'est ça que je peux dire par rapport à cette question.
Oui, oui, j'aimerais compléter le point sur la violence par rapport à la RDC, qui est un pays, qui est un régime assez répressif. Certaines personnes, effectivement, nous disent qu'il faudrait penser, vu le niveau de répression du régime congolais, il faudrait penser à s'associer à des groupes armés, monter des groupes armés, parce que Kabila est venu par les armes, il ne partira que par les armes. Notre première réponse est de dire que la RDC a déjà connu énormément de violence. Et quel est le résultat aujourd'hui ? Kabila père est arrivé par la violence. Ensuite, il est parti par la violence. Mais la conclusion, en fait, de la violence pour nous, pourquoi nous approcherons pas de la violence, c'est simplement qu'après, ce ne sont pas les citoyens qui prennent en charge ce changement, ce sont des individus. Nous avons entendu des chefs de guerre déclarer que, ben voilà, j'ai tout donné, j'ai sacrifié, je me suis sacrifié pour prendre ce pouvoir-là. Et c'est justement à ça que nous ne voulons pas revenir. Le président Mobutu également est venu par la violence, on peut dire ça comme ça. Et donc, en définitive, effectivement, les réalités sont différentes. Mais nous restons persuadés que, comme Smoke l'a dit encore une fois, lorsqu'on est organisé, travailler stratégiquement, dépendamment de votre environnement, permet dans tous les cas de réussir. Nous, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, je peux vous assurer que cette année, il y aura soit une alternance ou alors il y aura le respect de la Constitution en ce qui concerne le mandat du président Kabila et elle sera non-violente, ça je peux vous l'assurer, elle sera non-violente, elle vous permettra peut-être de comprendre un petit peu mon explication. Mais pour ce qui est de la violence, elle est complètement exclue parce qu'encore une fois, c'est un petit groupe, ça ne changera rien à ce que nous condamnons parce que c'est un petit groupe qui va prendre le succès finalement de cette victoire et répéter malheureusement ce qui a déjà été fait. Et pour répondre à la question sur l'après-président Kabila et le fait de ne plus avoir les mêmes personnes, oui, c'est le souhait de beaucoup. Mais encore une fois, nous avons essayé de le dire, nous avons la classe politique que nous avons aujourd'hui. C'est la réalité. Le peuple, à un moment donné, fera son choix par rapport à l'offre qui est là, disponible aujourd'hui. Et une autre responsabilité, justement, que les personnes qui pensent qu'il devrait y avoir un autre type de dirigeant, un autre type, une nouvelle classe politique, devrait dès à présent travailler sur l'émergence de cette classe politique. Parce que cette classe politique ne sera pas spontanée. Nous avons ce que nous avons. Et aujourd'hui, encore une fois, nous allons étape par étape. Il faut que le peuple fasse son choix de manière libre et démocratique. Et en même temps, il faut qu'une nouvelle classe politique, nous le disons très clairement, travaille et se mette en place. Mais entre-temps, si les élections se tiennent dans 7 mois, il n'y a pas une nouvelle classe politique, malheureusement, qui émergera dans les 7 mois à venir.
Oui, justement, parler de violence, au début, par exemple, au Tchad, quand ça a commencé, c'était un mouvement des étudiants et des élèves. Et ça, c'était des mouvements très violents. Quand ça commence, c'est toujours des bus, des voitures de l'État qu'on caillasse et puis on jette des cocktails Molotov. Et ça, c'était une perche qu'on tendait, en fait, à la machine de débit pour la répression. Mais depuis que ce mouvement a été récupéré aux étudiants et aux élèves et confié maintenant à d'autres personnes, on a essayé de cesser un peu avec la violence. Donc depuis le problème des ports de casque au Tchad, ça, la répression a été très forte. Mais depuis maintenant, on peut manifester devant le palais de justice et la police ne fait qu'encadrer. Parce que même au sein de la police, on sent en fait... maintenant, on a les enfants des policiers, des généraux qui sont dans les manifs avec nous. Donc, eux-mêmes sentent déjà qu'il y a quelque chose qui va se passer et personne ne veut pour le moment se salir les mains. On a été pacifique tout ce temps et généralement, c'est devant la presse et devant tout ça, on ne peut plus parce qu'il y a personne qui ose faire de violence. Et concernant l'implication des femmes dans les mouvements, au Tchad, bon, c'est la première fois qu'une dame va en prison pour ses convictions. Donc, je pense que c'est aussi une promotion. Donc, sur les 5, il y a une femme. Et voilà, ça commence à émerger. Mais dire aussi qu'il faut une place pour les femmes, moi, je pense que c'est aussi un peu machiste parce qu'à un moment, il faut quand on va trop dans les parités, dans les genres, ça, je crois que ça étouffe un peu les mouvements. Le problème, c'est de que s'il y a une femme dans le groupe et qu'on juge qu'elle est à la hauteur de la tâche, pourquoi pas? Mais aller recruter les femmes, leur dire venez entrer dans le mouvement. Parce que ça, c'est quelque chose qui vient vraiment du cœur. Les mouvements, c'est pas un truc qu'on forge aussi facilement. C'est des luttes de longue date. Donc, on ne peut pas recruter, par exemple, les femmes à la veille d'une manifestation. Ça, c'est parce que si le cœur n'y est pas. Donc, les femmes, je crois qu'elles doivent mériter leur place comme tout le monde. Et c'est ça, en fait, respecter la femme.
Merci. Smoky, peut-être oui. Sur la question de la religion, aucun d'entre vous n'a répondu.
Je vais essayer de répondre, mais je voulais aussi réagir. D'abord, en ce qui concerne la maman du Congo, là, qui a dit qu'en fait, ils ont eu déjà deux Kabila, mais c'est que les candidats qui sont là actuellement, là, même, eux-mêmes, on dirait même qu'ils ne font pas l'affaire. Je voudrais lui dire que, maman, chez nous aussi, on nous a dit ça au Burkina Faso. On a dit, mais si vous enlevez Blaise, vous allez mettre qui? Nous, on leur a dit... Mettez Marguya. Nous, on va se balader avec nos lance-pierres et puis nos frondes pour le surveiller. On s'en fout qui va venir derrière. L'essentiel, là, il n'a qu'à partir. Voilà. On peut dire peut-être que ce n'est pas raisonnable. Les fameux partisans de l'alternative vont te dire oui, non, mais bon. Le problème des partisans de l'alternative, c'est qu'il n'y a jamais d'alternance. Puisqu'ils ne vont jamais trouver qu'il y a quelqu'un qui est aussi bien ou qui peut le remplacer. Donc, ça ne bouge jamais. Nous, on dit on n'a qu'à commencer d'abord par respecter la règle. Après, on cherche un bon joueur. Mais si on ne respecte pas la règle, on va avoir un bon joueur. Voilà. Donc, c'était par rapport à la tentative. Maintenant, par rapport à la violence aussi, je voudrais dire, les intellectuels du continent ont tous démissionné. Parce que ceux qui pouvaient régler le problème même au niveau de nos dictatures, là, ce sont les intellectuels. Dieu sait que les dictateurs même ont peur de ces gens. Mais ils se sont tous accoquinés avec les régimes. Ils ne parlent plus. Ceux qui sont considérés comme des grands intellectuels dans nos États, ils pérorent, ils parlent, ils écrivent des livres, mais ils n'interviennent jamais quand les dictateurs s'installent au pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? C'est aux citoyens lambda de s'impliquer dedans. Et effectivement, la stratégie qui paye le mieux sur le terrain, c'est la stratégie non-violente. Non-violente ne veut pas dire bête. Tu ne vas pas t'arrêter comme ça, on va te gifler et puis tu ne réagis pas. Mais... sur le terrain, on remarque quand même qu'il y a des lancers, des jets de pierre, de pavés, mais en tout cas, on limite au minimum la casse. Tout ce qu'il faut, c'est une guerre de communication. Si on te voit avec une arme ou un truc comme ça, on va prendre ça justifié. C'est qu'ils ont des grands communicateurs. Donc nous, on s'arrange toujours pour que leurs actes les plus violents soient le plus rapidement médiatisés. Et c'est ça qui leur fait mal. Donc on s'arrange toujours parce qu'on a tout un lot de journalistes avec nous, de médias qui filment, qui machinent. Tu touches à un citoyen seulement, allez, on diffuse ça sur les réseaux sociaux, puis on essaye de créer le buzz, c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Mais ça paye. Et la deuxième chose aussi, pourquoi il faut avoir une action non violente, c'est parce qu'au sein même des forces même qui les défendent là, il y a des sympathisants, comme Alou disait tout à l'heure. Il y a des militaires qui ne sont même pas prêts pour le régime. Seulement, ils ne veulent pas parler parce que s'ils parlent, ils sont cabrimons. C'est poteau numéro 5. Donc, ils sont là, ils attendent que le peuple réagisse. Et quand ils voient que ça devient quelque chose de lourd, là, maintenant, ils sortent, disent qu'ils sont... Donc, ces gens-là, d'une certaine façon, pour les séduire, il faut leur donner l'impression qu'on a une forme de maturité dans le combat. Il faut arriver, justement, à capter cette alliance possible avec ces gens qui ne sont pas d'accord avec le régime, qui le subissent, malgré que ce soit des soldats. Voilà. Donc ça paye. Par expérience, ça paye. Il faut être aussi prêt au sacrifice, ça c'est clair. C'est clair qu'on va y laisser des plumes. Voilà. Quand on y va, c'est pas un jeu d'enfant. C'est pas une marelle. Tu sais que ça va arriver. Moi, j'ai dû me tirer pendant une semaine. Moi, je suis au Burkina Faso. De toute l'histoire du Burkina, c'est la première fois qu'on attaque un artiste, qu'on bombarde le studio d'un artiste avec des roquettes. Moi, je me cherchais, ma famille se cherchait, ma famille a disparu de la maison. C'est des risques que vous prenez. Et vous croisez les doigts pour que ça passe. Et ce sens du sacrifice, mais on ne peut pas dire aux gens aussi, allez-y, vous suicidez, on a aussi des responsabilités. Toi, tu peux prendre cette responsabilité. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un, va donner ta poitrine aux balles.
Surtout si toi, tu es derrière. C'est ça la différence entre un leader et un chef. Un chef, il envoie, un leader, il est devant. Toi, tu vas dire à quelqu'un d'aller offrir ta poitrine au bal, c'est compliqué. Donc, le sens des responsabilités nous amène souvent même à avoir cette lutte pacifique. Parce qu'au moment où ça tire, qui est bête pour rester ? On va fraya. On part et puis on revient. C'est un repli stratégique. Nous, pendant le push, on a tiré sur nous. Moi, je marchais comme Django, comme ça, j'étais devant. Les gens disent, oh, quand je veux ralentir, parce que ça tire. Tu vois même les balles qui sifflent. Il y a des gens qui disent les imbéciles qui restent qui disent, non, smoke, viens paix, on a calé, il y a feuille. Donc toi, tu marches, mais bon, toi-même, tu n'es plus tranquille, quoi. Tu marches, ça tire. En temps, il y a un gars qui a dit, bon, smoke, puisqu'ils essayent de m'arrêter. Moi, j'étais là, j'étais devant moi, j'étais comme si je suis drogué, je marche seulement. Et on était plusieurs milliers à marcher. Entre-temps, on me dit, non, smoke, arrête-toi, on va faire une réunion de crise rapide. Donc, on s'est mis sous un caïcédra à 5, et puis on a commencé à parler. Oui, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on fonce ou quoi? Pendant ce temps, ça tirait toujours. J'ai dit, bon, écoutez les gars, bon, de toute façon, on est là, je crois que si on n'est pas déterminé, là, c'est le combat là va finir ici. Et puis j'ai dit, mais il y a quelqu'un qui dit, argument dit, non, écoutez, c'est juste un repli stratégique. Quelqu'un dit encore, viens, père, on a calé, il y a fouille. Donc moi aussi, je veux rentrer dedans. En temps, j'ai mon lieutenant qui a tapé mon épaule comme ça, il a dit, smoke. Pardon, retourne-toi. Quand je me suis retourné, il n'y avait pas plus de 30 personnes. Tous les gens avaient fraya. À partir de ce moment-là, qui est fou, qui est bête? J'ai pris la mangrove. Je suis rentré en brousse. Ça, c'est l'instinct de survie. Donc, on ne peut pas demander aux gens d'aller se tuer gratuitement comme ça. Non. Voilà. Se battre, d'ailleurs, être courageux, OK, mais il y a des limites, quoi. Notre responsabilité doit nous amener aussi à préserver des vies. Voilà, pour l'avenir. Par rapport à la religion, c'était... est-ce qu'on ne peut pas combattre contre les extrémistes religieux, c'est ça?
Non, c'est pas.
Les chefs religieux.
Comment
bah, écoutez, nous sommes dans des pays laïcs, mais on ne peut pas empêcher les gens d'avoir de l'influence. Voilà. Si vous acceptez d'être... comment dirais-je dans à l'église, ils appellent ça comment? Nos brebis.
Les brebis.
Bon. Ça peut avoir plusieurs sens. Si le berger vous amène dans le troupeau, on dit alléluia. Mais s'il vous amène dans l'abattoir, qu'est-ce qu'on va dire? Donc on peut pas pousser les gens. Bon, les gens font ce qu'ils veulent. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, des chefs religieux, religion du pouvoir. Ce pouvoir doit rester religieux. Ce pouvoir ne doit en aucun cas arriver dans le politique, arriver dans l'exécutif, etc. Beaucoup de chefferies traditionnelles, par exemple, ont été utilisées par les dictateurs pour orienter les votes. Avant, c'était quoi? Des partis politiques avec des symboles. Pourquoi ils prennent tout le temps des animaux? C'est ça en Afrique. Mais c'est trop bête. On prend un éléphant et puis on dit aux villageois, le chef du village vient dire, il faut aller voter pour lui là. Le gars dit pourquoi? Parce que l'éléphant, c'est le plus fort de la brousse. C'est des arguments comme ça qu'on donnait, servait aux villageois pour aller voter. Parce que le lion, c'est le plus roi. Parce que le lièvre court plus vite. Des trucs comme ça. Et effectivement, ces chefs religieux ont participé à tromper le peuple parce qu'ils avaient des dividendes derrière. Donc aujourd'hui, nous disons, séparation des pouvoirs au sein de la démocratie. Séparation aussi. Tout ce qui est chefferie traditionnelle ou religieux ne doit plus s'impliquer dans l'exécutif. Ça, c'est notre souci. Et c'est cette information que nous tendons à diffuser un peu partout pour que, justement, le religieux reste dans le religieux, etc., le traditionnel dans le traditionnel, pour qu'on puisse avoir cette société laïque là pour laquelle on est, dans laquelle on est censé exister, dans l'intérêt de tous.
Merci, Smoky. Pour une conférence à l'ULB, c'est une très bonne conclusion. Donc, je vous demande d'applaudir quand même nos quatre intervenants de la soirée. Je vous remercie à tous pour votre présence ici ce soir. Je remercie en particulier deux personnes, Zoltan Simon du Parlement européen qui a rendu cette soirée possible aujourd'hui, Philippe Delchambre qui était à la technique et qui va faire en sorte que tout ce que vous avez entendu ce soir ayant été enregistré et filmé, ça pourra circuler et vous pourrez envoyer ça à tous les gens qui n'ont pas pu être avec nous ce soir mais qui l'auraient voulu. Maintenant, juste derrière la porte, il y a un petit verre de l'amitié qui vous attend. Donc, vous pouvez prolonger la conversation autour d'un verre.
Ici se termine la seconde partie de la conférence sur les nouvelles mobilisations citoyennes en Afrique, enregistrée le 11 avril 2016 à l'amphithéâtre Chavannes, campus du Solbosch, Université libre de Bruxelles.
Radio Campus, la radio où il n'y a pas que des blancs. Oui, oui.